Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition de Géopolitique consacrée au sport. Le sport comme vecteur de diplomatie, outil de visibilité, d'affirmation. Depuis la renaissance de l'olympisme à la fin du 19e siècle, le sport joue un rôle politique et international croissant. On se souvient de l'Allemagne nazie qui avait fait des Jeux Olympiques de Berlin en 1936. Une tribune politique, un peu plus tard, après la Seconde Guerre mondiale, la compétition entre les États-Unis et l'URSS qui passa aussi par une course aux médailles. Plus récemment et dans un esprit très différent, Nelson Mandela, qui en Afrique du Sud appuya sa politique de rassemblement à la fin de l'apartheid sur la Coupe du Monde de rugby. La donne a changé il y a 20 ans avec l'entrée du sport dans l'ère de la communication mondialisée. Hier, préparation à la fonction combattante ou terrain de substitution des conflits, le sport est devenu une source de rayonnement et un moyen de communication, c'est-à-dire un véritable outil d'influence. Il constitue l'un des premiers spectacles mondiaux. Bref, on n'a jamais autant parlé de géopolitique du sport. Avec nous aujourd'hui, nos invités, Pascal Boniface, fondateur et directeur de l'IRIS, auteur de plusieurs ouvrages sur la géopolitique du sport. Bonjour.
Bonjour.
Laurent Vidal, enseignant-chercheur et directeur de la chaire éthique et sécurité dans le sport à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Bonjour.
Bonjour.
Et Pim Verschuren, chercheur à l'Institut des relations internationales et stratégiques. Bonjour.
Bonjour.
L'actualité foisonnante sur le thème du sport, pêle-mêle, l'élection prochaine à la tête de la FIFA, les Jeux Olympiques au Brésil l'été prochain, les affaires de dopage, de corruption, de matchs trucs. Okay. Nous allons parler de tout cela. Le sport dans les questions internationales n'est pas nouveau, comme je le disais en introduction. Il n'empêche qu'on semble atteindre un degré inégalé. Le sport est-il aujourd'hui un élément incontournable des relations internationales? Et finalement, avec quel apport, Pascal Boniface?
Oui, vous avez parfaitement présenté le problème. Le sport a toujours joué un rôle international, soit comme préparation à la fonction combattante. Et il ne faut pas oublier que si Pierre de Coubertin a réinventé les Jeux Olympiques, c'était à la fois pour contribuer à la pacification des relations entre nations, mais également pour préparer la jeunesse française à une revanche par rapport à l'Allemagne, puisqu'on attribuait la défaite de 1870 à une meilleure préparation physique des troupes allemandes par rapport aux troupes françaises. Ceci donc a toujours existé, mais maintenant on a l'impression qu'on est rentré dans une nouvelle ère. De même que l'on peut dire que la mondialisation n'est pas un phénomène nouveau, mais que cette mondialisation-là est différente des mondialisations précédentes. Pourquoi ? C'est parce que nous sommes à l'ère de la communication et que le sport a pris une importance sociale, sociétale, sans aucune commune mesure avec ce qui était la sienne auparavant. Et il y a maintenant 2 ans, Laurent Fabius a nommé un ambassadeur spécifique pour le sport au Quai d'Orsay. Le Quai d'Orsay était plutôt rétif comme institution à l'introduction du sport dans la maison. Et si Laurent Fabius l'a fait, c'est pas parce que c'est un fan de sport ou qu'un aficionado. Il l'a fait de façon rationnelle parce que auparavant, seule la presse sportive parlait de sport. Aujourd'hui, il n'y a pas un média généraliste qui ne fasse une grande place et souvent, lors des compétitions, une première place aux affaires sportives. Donc on peut dire que le sport est partout, concerne tout le monde. Juste un exemple pour terminer. Tout le monde connaît Usain Bolt. Peu de monde connaissent le nom du premier ministre de la Jamaïque.
Pim Verschuren, je me tourne vers vous. Le sport, partie intégrante d'une stratégie diplomatique aujourd'hui, la France qui l'a compris, et puis d'autres pays, on peut parler notamment des pays du Golfe qui, il y a une quinzaine d'années, ont bien compris que le sport était un moyen de communication absolument incontournable.
Bien sûr, il y a différentes stratégies d'utilisation du sport. C'est vrai que comme le sport est aujourd'hui une activité extrêmement populaire, la plus télévisée, la plus universelle, hein, les cérémonies d'ouverture des Jeux Olympiques ou les Coupes du Monde de football sont aujourd'hui les événements télévisés les plus regardés dans le monde et de façon universelle. Donc il y a beaucoup de pays, dont notamment les pays du Golfe, qui vont chercher une sorte de reconnaissance en accueillant ces grands événements sportifs, en investissant dans des infrastructures, en investissant dans des clubs de sport qui sont aussi extrêmement populaires. Il faut savoir aussi que le sport est un secteur économique très florissant. La mondialisation des grands événements sportifs, hein, qui touche tous les BRICS, de plus en plus de pays émergents, fait qu'il y a un véritable marché économique aussi et que pour un certain nombre de pays, le sport peut représenter un secteur de diversification économique, d'investissement, qui là aussi peut être profitable. Donc ça, il y a différents intérêts dans le sport. On peut chercher la popularité, le rayonnement, on peut chercher la diversification des revenus économiques, on peut aussi chercher de tisser des liens avec d'autres populations en multipliant des échanges de sportifs, de l'envoi de coachs ou l'envoi de vedettes sportives. Donc il y a différentes techniques et la France, effectivement, comme l'a dit M. Boniface, aujourd'hui, là aussi, une diplomatie sportive réelle et déployée à travers cet ambassadeur pour le sport et un réseau de référence sport dans les ambassades françaises dans le monde entier.
Laurent Vidal.
Non, Pascal a eu raison de rappeler l'action de Coubertin, mais on peut faire remonter ça dès les Jeux Olympiques, les premiers Jeux Olympiques, enfin pas qu'à Olympie, il y en avait un peu partout en Grèce. Donc c'est évidemment une histoire aussi d'ambassade, de rivalité entre cité et État dans la Grèce ancienne, donc on pourrait ici multiplier les exemples. Donc ça n'est pas d'aujourd'hui. Alors avec cette notation importante, c'est aujourd'hui, c'est globalisé depuis les années 90, par Internet aussi, les médias, on sait tout ça. Pour vous donner un exemple que je connais un peu moins mal que les autres, vous parliez des pays du Golfe. Bon, il est clair que le Qatar a fait, qui est un tout petit pays sur la carte, c'est un micro-État qui est assis sur des réserves de gaz, le Qatar a fait du sport un outil diplomatique très 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 puissant, et c'est son principal outil diplomatique. La chose est très simple à comprendre, le Qatar est isolé à côté de l'Arabie Saoudite, et donc il a acquis une dimension, une visibilité internationale, justement par le sport. Et s'il a investi dans le sport, c'est justement pour avoir cette visibilité qui lui permet d'exister par rapport à ses concurrents sur le terrain. On ne prend que ces exemples.
Alors, pour faire une transition avec ces pays qui ont besoin d'exister, et la venue prochaine des Jeux Olympiques au Brésil, été prochain, donc été 2016, le sport comme vitrine, le Kosovo est un exemple intéressant d'un pays qui a proclamé son indépendance en 2008, mais qui n'est reconnu en tant qu'État que par une centaine de pays. Il est par exemple encore loin d'être admis à l'ONU. En revanche, il a été, le Kosovo, admis au sein du Comité international olympique, donc le CIO, en décembre 2014. Et il entend bien faire de sa participation au Brésil le moyen de montrer aux télévisions du monde son drapeau et d'une certaine manière de trouver un moyen d'exister davantage, Pascal Boniface.
Oui, et c'est vraiment un cas très très particulier. Il y a un exemple de la même nature, même si le pays n'est pas de la même nature. C'est l'Algérie, qui a une équipe nationale de football avant d'exister comme État. Et de 58 à 61, des joueurs professionnels algériens, donc français à l'époque, qui jouaient dans le championnat français, sont partis pour jouer en Afrique, dans les pays communistes, et donc pour montrer le drapeau, pour chanter l'hymne national, avant même que l'État algérien n'existe et ne soit reconnu. La problématique du Kosovo est un peu du même ordre. Le Kosovo est, comme vous l'avez dit, reconnu par une centaine d'États, mais n'est pas admis à l'ONU du fait du veto russe et chinois. Et au sein de l'Europe, des pays comme l'Espagne notamment sont contre la reconnaissance du Kosovo par peur de sécessionnismes régionaux. Notons quand même que le Kosovo est pas vraiment un succès sur le plan de la gestion, et que ce pays pour lequel l'OTAN a fait la guerre à la Yougoslavie est aujourd'hui dirigé par des gens dont la réputation n'est pas vraiment immaculée. Et ce n'est pas une franche réussite suite à 500 militaires. Mais du coup, ce pays cherche à exister sur la carte et effectivement être admis par le CIO, alors qu'il y avait des résistances pour les questions stratégiques et politiques, va lui permettre de montrer les athlètes, va lui permettre de défiler derrière le drapeau du Kosovo, éventuellement de jouer l'hymne en cas de victoire, mais en tout cas de défiler, de montrer le drapeau. Et c'est une victoire symbolique de deux ordres, à la fois pour la population du Kosovo, qui va dire, ça y est, on est reconnu par l'extérieur, donc en termes de construction d'un État qui est quand même un État failli, disons-le, pour ne pas dire un État mafieux, c'est effectivement quelque chose d'important. Et puis, aux yeux du monde, le Kosovo existera. Alors, espérons qu'on en parle sur le plan sportif, permettra également que l'on parle de tout ce qui ne va pas au Kosovo, et c'est aussi la publicité peut être dans les deux sens. Mais là, il y a dans le monde occidental, puisque nous sommes responsables de la naissance de cet État, une sorte de déni de réalité de ce qui se passe actuellement au Kosovo. Il faut noter que le CIO est beaucoup plus laxiste en termes de reconnaissance, parce que la FIFA, elle, ne veut pas reconnaître comme membre de la FIFA un État sans l'autorisation qui ne serait pas reconnue par l'ONU, ou sans l'autorisation de l'État, je dirais, principal auquel l'État appartient. Par exemple, la Polynésie ou la Nouvelle-Calédonie sont présentes à la FIFA, mais avec le feu vert de Paris. Donc ce n'est pas vu comme une sorte de défi par rapport à la sécession.
Laurent Vidal.
Alors pour le Kosovo, pour rebondir sur ce que vient de dire Pascal, on pourrait prendre des exemples là aussi de directeurs ou de patrons de clubs, pour parler mal, qui ont passé de vie à trépas, hein, avec cet exemple, parce qu'on parlait de pays mafieux, donc il y a des exemples très très clairs où le sport est vraiment en danger. Et puis, au-delà de la question du Kosovo, je pense que la position du CIO est... parce qu'il faut se poser la question, pourquoi le CIO fait ça? Je crois que le CIO, aujourd'hui, a compris, peut-être qu'on y reviendra, qu'il a une carte à jouer importante en termes, précisément, d'intégrité, d'exemplarité. Et je crois qu'il a, en tant qu'autorité fêtière du sport mondial, qu'il a précisément un rôle à jouer joué, que ça, enfin c'est une des explications, hein, me semble-t-il, que cette plus grande facilité avec laquelle il accepte en son sein ce nombre de pays lui permet aussi de reprendre la main dans ce jeu à plusieurs bandes qu'il entretient avec d'autres organisations internationales. Aujourd'hui, le CIO a clairement une volonté, mais il n'y a pas que dans ce domaine, dans d'autres domaines, de reprendre la main sur vraiment le sport mondial, parce que les choses sont tellement graves aujourd'hui que le CIO sait qu'il faut réagir. Il le fait de plusieurs manières, et je pense que ça, c'est une des explications, c'est une des manières de reprendre la main sur le monde sportif.
Alors, chose tellement grave aujourd'hui, je vous passe la parole après, Pim Verschuren, Laurent Vidal...
Tout ça sont les questions de corruption, on y reviendra tout à l'heure. Mais c'est tout ça, voilà. Et donc, le CIO ne peut pas se permettre aujourd'hui un scandale tel que celui qui a éclaboussé la FIA. C'est pas possible. Parce qu'il y a des répercussions très claires qu'on mesure, hein, sur la réputation du sport. Pim Verschuren a parlé tout à l'heure, Pim de valeur aussi, le sport est porteur de valeur. Si on veut faire quelque chose pour le sport, il faut commencer à nettoyer les écuries d'OGAS, pour employer une formule connue.
Pim Verschuren.
Oui, pour revenir sur la position du CIO, ce qui est intéressant, je pense, c'est de voir que le CIO veut montrer qu'ils sont universels et qu'ils arrivent à dépasser des blocages politiques, donc faire des choses que les États n'arrivent pas à faire, s'entendre. Et ils vont aussi faire défiler des réfugiés. Donc là aussi, c'est un peu une stratégie de communication de la part du CIO et de dire, vous, les États, vous n'arrivez pas véritablement à gérer ce problème des réfugiés. Nous, on va y arriver. On va faire défiler un drapeau blanc avec des réfugiés derrière. Et le fait de faire défiler le Kosovo et de dépasser, en fait, les blocages politiques, le CIO veut montrer qu'il recherche une sorte d'universalité. Et dernière anecdote sur le Kosovo, il y a quand même des chances que l'hymne kosovar soit diffusé aux Jeux Olympiques, parce qu'il y a une judokate qui est championne du monde du Kosovo. Et d'ailleurs, elle a gagné les championnats du monde en Russie dernièrement. Donc, là aussi, la Russie, qui est quand même l'allié principal de la Serbie, c'était aussi une sorte de pied de nez à la Russie à l'époque. Donc voilà, on risque d'avoir là aussi des liens sport-politique saillants au prochain jeu à Rio.
Et cette judoka qui s'exprime régulièrement dans la presse pour évoquer justement cette très forte pression qu'il peut y avoir sur elle, emporter une médaille au Brésil pour défendre les couleurs du Kosovo. Pascal Boniface.
Oui, il faut rappeler qu'en 92, alors que la Yougoslavie était exclue par exemple de l'Euro de football, alors qu'elle s'était qualifiée sur le terrain de par l'UEFA, le CIO a permis à des sportifs yougoslaves de participer, mais pas sous le drapeau yougoslave, là encore sous un drapeau blanc, comme Pim Verschuren le rappelait pour les réfugiés. Et donc il y a toujours cette politique, disons, volontariste du CIO d'être le plus ouvert possible.
Vous écoutez Géopolitique.
Alors, Laurent Vidal évoquait les choses graves et les scandales. Pour faire le lien entre politique et sport, la FIFA qui a fait donc l'actualité tout au long de 2015 et peut-être même avant avec les scandales en série qui ont frappé ce qu'on appelle l'ONU du football, fait à nouveau l'actualité en ce début 2016 avec l'élection attendue le 26 février prochain. C'est ce qui a justifié ce projet d'émission. Élection de son nouveau président, Sepp Blatter, aux manettes depuis 1998, ayant été écarté. Qu'est-ce que la présidence de la FIFA ? Une fonction sportive ou une fonction politique, avant d'en venir au détail de ce qu'il faut attendre de cette élection ? Qui veut répondre ? Pascal Boniface.
Je dirais les deux, mon capitaine. C'est-à-dire que le sport et le football, qui est le sport universel, qui est le sport le plus pratiqué, qui est le sport le plus regardé, qui est le sport qui attire le plus d'argent. Donc celui qui est président de la FIFA, bien sûr, gère les affaires sportives. Il est élu pour cela, notamment la Coupe du Monde, qui est la compétition emblématique, qui est vraiment, par définition, l'événement sportif mondialisé. Mais du coup, l'importance du football fait que ça lui donne un rôle politique, stratégique, médiatique, sans commune mesure avec ce que pouvait faire Jules Rimet en son temps, ou même Joao Avelange ou les présidents. D'ailleurs, la preuve, c'est que le scandale de la FIFA, l'arrestation spectaculaire de plusieurs membres du board, la mise en cause de Sepp Blatter, il y a 20 ans, cela n'aurait pas été un événement aussi commenté que cela. Or, lorsque le scandale a éclaté, tous les médias du monde n'ont parlé que de cela pendant 3 jours. Ça a pris autant d'importance que le déclenchement de la guerre d'Irak en 2003 ou un autre événement de taille stratégique avec des répercussions beaucoup plus lourdes. Donc ce simple fait montre que on n'est pas dans l'anodin, on n'est pas dans la bagatelle. Et donc aujourd'hui, effectivement, le président de la FIFA est à un rang de chef d'État, il a un rang protocolaire, il peut voir qui il veut quand il veut dans n'importe quel pays du monde, et que l'aura, le pouvoir soft dont il dispose dépasse de beaucoup, et c'est vraiment une icône du village mondial qui est devenu la planète.
rang de chef d'État, président de la FIFA, Pim Verschuren.
Oui, et c'est vrai que la FIFA doit aussi arbitrer entre des intérêts politiques. Est-ce qu'il faut défendre l'UEFA, la Confédération européenne, qui est quand même la confédération la plus puissante financièrement, ou redistribuer beaucoup plus les puissances politiques et aussi les enjeux financiers, puisque la FIFA, c'est aussi 1,5 milliard d'euros annuels. Donc, comment est-ce qu'on redistribue cet argent? Est-ce qu'on est plutôt solidaire ou est-ce qu'on va plutôt ramener l'argent là où il, dans les confédérations les plus riches déjà? Donc voilà, c'est politique, c'est financier, et c'est pourquoi la décision du prochain président est cruciale.
Alors, il y avait un article du Monde sur le sujet, très drôle, parce qu'il présentait la structure de la FIFA avec toutes ses ramifications, avec un homme sur une espèce de trône avec une couronne. Alors je pense que c'est une sorte de roi de cette façon. Alors justement, pour éclairer vos auditeurs, juste 2-3 chiffres. En 1966, quand la Grande-Bretagne a gagné la Coupe du Monde, les joueurs anglais ont été rémunérés en gros 93 dollars la journée. Ils se sont partagés 1550 dollars à la fin de la victoire. Aujourd'hui, en première ligue anglaise, la moyenne des revenus, c'est 15 500 dollars par semaine. Et pour les plus importants, presque 400 000 dollars par semaine pour les gens qui gagnent le plus d'argent. Donc pour vous donner un petit peu les montants financiers, voyez un petit peu ce que ça peut engendrer. Et on va même, puisqu'on parlera peut-être des paris sportifs, certains évoquent la fourchette entre 1000 milliards et 3000 milliards de dollars de parier, d'accord, sur une année. Donc la FIFA est à la tête de vous imaginez un petit peu les chiffres qui sont en jeu. Et puis ce qui est important de dire, c'est que la FIFA n'a jamais été inquiétée. Ils n'ont jamais été, pour parler mal, challengés. Il n'y a jamais aucun contrôle qui soit plus ou moins important, plus ou moins précis. Et puis il n'y a aucune autorité fêtière. Il n'y a rien au-dessus de la FIFA. Il n'y a rien qui pourrait permettre un contrôle global. Et ça, c'est aussi important de le noter. Voilà, et puis après, il y a des flux financiers, mais on en reparlera, qui circulent sans aucun contrôle précis. Et quand vous regardez, par exemple, récemment, il y a eu en janvier 2015, le site, là aussi, de la première ligue anglaise, des transferts de joueurs. Alors, on a des chiffres globaux, mais on ne sait pas exactement ce que sont les détails financiers, les transferts de joueurs, et qui gagne quoi. Donc là aussi, il y a un manque total de transparence, et il n'y a aucune obligation de reddition de compte, au sens où on l'entend chez nous. Obligations, il y a, mais elles sont très faibles, elles sont assez mal contrôlées.
Alors, Pascal Boniface, cette élection, la présidence de la FIFA, elle se présente comment ?
C'est un peu, pour l'instant, c'est un peu le pot au noir. On ne sait pas trop, ça se tracte en coulisses. Alors, il y aurait une éventuelle convergence entre la Confédération asiatique et la Confédération africaine qui pourrait faire que le représentant du Bahreïn pourrait être élu. Mais en même temps, le Bahreïn est un pays qui a quelques problèmes pour l'instant en termes de respect des droits de l'homme. Le représentant a été accusé d'avoir participé à la répression, ce qu'il a nié. Et on en saura un peu plus dans les temps futurs. Ça se joue quand même le 26 février. Bon, comme on le sait, celui qui était l'hyper favori, qui aurait été élu dans un fauteuil, Michel Platini, a été entraîné dans sa chute par Sepp Blatter, qui a tout fait pour faire éclater un scandale, pour se venger en quelque sorte post-mortem.
Vous voulez pas partir tout seul.
Voilà, en disant, ok, Platini m'a savonné la planche, eh bien je vais me venger en l'entraînant dans ma chute. Mais ce qui est certain, c'est que après le scandale qui a éclaté l'été dernier, sur, disons, les malversations et le clientélisme de Blatter, il y aura un effort de transparence qui est indispensable. Et quel que soit le nouveau président de la FIFA, la transparence sera le défi majeur, tout simplement parce que c'est la question de la crédibilité de la FIFA qui est en jeu. Il y a quand même beaucoup de gens qui, dans le monde, estiment que le football prend trop d'importance, soit parce qu'ils n'aiment pas le sport, soit parce qu'ils représentent d'autres sports, et qui seraient ravis de pouvoir attaquer le football. Et en même temps, il y a matière à l'attaquer par rapport aux erreurs et aux mauvaises conduites de certains. Le problème, c'est que, pour parler de visibilité dont on parlait en début d'émission, c'est-à-dire que le football a pris une visibilité qui n'existait pas il y a 20 ou 30 ans, ou 50 ans, et en même temps, la gouvernance n'a pas beaucoup changé. Et que on est beaucoup plus exigeant aujourd'hui avec le monde du football, tout simplement parce qu'il a une importance plus grande. On n'est pas là dans l'association des boulistes du 13e arrondissement. Donc, c'est normal que la transparence soit plus grande. Pardon pour les boulistes du 13e.
Alors, ils auront compris qu'ils n'étaient pas particulièrement stigmatisés, c'était juste un exemple. Alors, on n'a pas beaucoup de temps pour terminer cette première partie d'émission, mais il sera intéressant de rebondir sur cette notion de transparence de la FIFA. Transparence sur quoi? Il me semble que, apparemment, d'après ce que j'ai compris, l'éventail est assez large. Et j'aurais cette question pour démarrer aussi cette deuxième partie. La question de savoir si les conditions, justement, d'attribution des Coupes du Monde 2018 en Russie et 2022 au Qatar, eh bien, si elles peuvent être remises en cause.
Femme au Congo-Brazzaville. Bonne soirée à l'écoute de Radio France Internationale.
We'll be right back.
Géopolitique. Marie-France Chatin.
Géopolitique à quelques jours de l'élection à la tête de la FIFA, annoncée donc pour le 26 février. Regard sur la géopolitique du sport avec nos invités. Pascal Boniface, fondateur et directeur de l'IRIS, auteur de plusieurs ouvrages sur la géopolitique du sport. Laurent Vidal, enseignant-chercheur et directeur de la chaire éthique et sécurité dans le sport à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et Pim Verschuren, chercheur à l'Institut des relations internationales et stratégiques. Nous évoquions à la fin de la première partie de l'émission, donc cette élection à la tête de la FIFA le 26 février prochain et la nécessité de transparence sur un large éventail de compartiments finalement à propos de la FIFA. Et je posais cette question qui est de savoir finalement si les conditions d'attribution des Coupes du Monde 2018 en Russie et 2022 au Qatar, elles allaient être le cas échéant remises en cause. Qui veut répondre, Pim Verschuren?
Avant qu'on ait les preuves déjà qu'il y a de la corruption sur ces deux attributions, ça va prendre du temps. Il y a des procédures judiciaires en cours, en Suisse notamment et aussi aux États-Unis. Mais avant qu'elles aboutissent, ça va prendre du temps. Et aujourd'hui, on est à 2 ans de la Coupe du Monde en Russie, 6 ans de la Coupe du Monde au Qatar. Si vous allez au Qatar, vous voyez que tous les stades sont déjà tous en construction. C'est quand même difficile de revenir sur une décision qui a impliqué tant de contrats.
Donc c'est déjà trop tard.
Marketing, sponsoring, infrastructure. Je pense que c'est compliqué, on ne peut pas vraiment savoir aujourd'hui. Bon, la crédibilité de la FIFA, aujourd'hui, ce qu'il en est, elle serait encore plus remise en cause si elle revenait sur une décision aussi importante qu'elle a prise en 2010 pour les autres pays candidats pour les prochaines Coupes du Monde. Ça remettrait la crédibilité de la FIFA en cause, je pense. C'est mon avis personnel.
Laurent Vidal.
Alors, je partage l'avis de Pim en précisant la chose suivante, c'est qu'il faut faire attention d'abord à ce qu'on raconte, hein, donc pas mettre et vouer aux gémonies et mettre au pilori sans preuve, c'est très important. Puis il faut faire attention aussi à l'hypocrisie un peu ambiante, hein, donc le Qatar n'a pas que des vertus, ça n'est pas non plus le diable qu'on présente parfois, donc il n'y a pas de raison, si vous voulez, de stigmatiser un pays parce qu'il est un peu visible, etc. Donc si on rentre dans certains détails, je dirais qu'ils n'ont pas fait pire ou pas mieux que certains pays, je peux pas rentrer en détail ici, hein. Tout le monde aura compris, il faut faire attention à ça. Et puis de surcroît, effectivement, il est beaucoup trop tard pour remettre en cause, enfin me semble-t-il. Ou alors, si on fait ça, il faut tout remettre à plat dans ces cas-là. Et alors
tout
là,
casser tout de suite, c'est peut-être
l'institution,
un peu brutal.
Voilà, toute l'institution, il faudrait remettre à plat. Dans ces cas-là, si on veut aller jusqu'au bout, allons jusqu'au bout, mais ça risque de créer quelques soubresauts, à mon avis, dont les conséquences sont difficilement aujourd'hui évaluables. Donc, faut faire attention déjà à ce qu'on raconte, attention à pas trop développer l'hypocrisie d'un petit pays comme le Qatar, qui n'a pas que des vertus, encore une fois, mais qui n'est pas pire que certains autres. Donc, faisons attention, restons prudents sur ces questions.
Alors, tout remettre à plat, ce sera l'objectif, le travail du nouveau président, Pascal Boniface. Qu'est-ce que l'on peut dire de ces défis et des dossiers prioritaires?
Pour revenir aux deux candidatures, moi, je distinguerais la Russie et le Qatar. Déjà en termes de calendrier, parce que les éliminatoires pour la Coupe du Monde 2018 vont commencer dès septembre et il est vraiment trop tard pour revenir en arrière. Par ailleurs, la Russie, c'est quand même un gros morceau. Et donc, venir suite à une enquête déclenchée aux États-Unis, retirer la Coupe du Monde à la Russie, on voit bien que les implications stratégiques sont sans commune mesure avec l'implication sportive de la chose. Deuxièmement, pour le Qatar, bien sûr, les stades sont construits, les contrats sont signés, mais s'il y avait vraiment une grosse révélation, hein, une corruption massive, d'achat de voix massive, là, la question pourrait être ouverte. Parce que le Qatar, c'est moins important stratégiquement que la Russie, et que la Coupe du Monde, c'est dans 6 ans et demi, donc il est encore temps de revenir en arrière. Sauf que, il y a beaucoup de rumeurs, mais il y a peu de preuves, pour l'instant, il n'y en a pas. Et donc, on voit bien qu'il y a aussi un peu de Qatar bashing, parce que, je veux dire, c'est un pays sur lequel, qui est très visible, et donc sur lequel il est plutôt commode de taper. Dans le passé, quand même, pour rebondir sur ce qu'a dit Laurent Vidal, d'autres candidatures ont été écornées. On sait très bien que si l'Allemagne a eu la Coupe du Monde en 2006, c'est quand même suite à l'achat d'une voix du représentant de la Confédération Océanie qui devait voter pour l'Afrique du Sud et qui ne l'a pas fait. Parce que à l'époque, un sponsor qui avait des liens avec la carrière allemande pouvait exercer de l'influence. Donc, on n'est pas passé d'une opération main blanche à une opération tous pourris. Il y a toujours eu toutes les candidatures, des trafics d'influence, etc. Le tout, c'est de voir s'il y a corruption ou pas. On a beaucoup parlé du vote de Platini pour le Qatar, mais le Qatar a gagné par 14 voix contre 8 l'obtention de la Coupe du Monde en 2022, donc c'est pas la voix de Platini qui a fait la différence. Et par ailleurs, ce n'est pas quand Platini aurait déjeuné à l'Élysée avec le chèque du Qatar. Il peut déjeuner avec qui il veut, quand il veut, et il n'est pas impressionné par un chef d'État, et c'est pas Sarkozy qui dirige Platini. On voit bien qu'il y a beaucoup de fantasmes, beaucoup quand même de théories du complot derrière tout cela. Ceci étant, si la Coupe du Monde au Qatar était mise en cause, bien sûr le Qatar, y compris dans le monde arabe, n'a pas que des amis. Mais ça serait quand même vécu comme, ah tiens, pour une fois qu'un pays musulman peut organiser un événement sportif mondialisé, on lui retire, comme par hasard, alors qu'on ne l'a pas fait auparavant. Donc je pense que la FIFA doit être plus transparente, qu'il faudrait que les votes soient publics. Pourquoi cacher cela ? Le vote public est quand même quelque chose qui protège. Et là, finalement, le fait qu'il ne soit pas public vient plutôt alimenter les suspicions qu'autre chose. Je pense que les prochaines attributions devraient être des votes publics, et là qu'il y a vraiment un travail important. Maintenant, regardez, les élus, leur patrimoine est rendu public. Ben, on pourrait faire que les décideurs de la FIFA, comme du CIO, déclarent public leur patrimoine et que l'on observe en fin de mandat si leur patrimoine a augmenté et pourquoi. Voilà. Donc là, on a besoin, le sport a besoin de se protéger. Il doit être insoupçonnable. Mais à l'inverse, si là, on a beaucoup de travail et de progrès à faire en termes de transparence pour protéger la réputation du sport, ne pensons pas quand même que... rappelons-nous que lorsque Londres a gagné les JO de 2012 contre Paris, la réaction des Français était de dire « Ah, il y a quand même eu de la corruption, sinon on ne pouvait pas perdre ». Donc en fait, les accusations de corruption sont toujours portées par ceux qui ont perdu l'organisation de compétition à l'encontre de ceux qui l'ont gagné.
Des jalousies, mais pas forcément simplement, Laurent Vidal.
Alors là aussi, si vos auditeurs seront sûrement intéressés, puisque la FIFA a mis en place un comité de réforme, il y a des rapports qui ont été rendus assez récemment sur les réformes à envisager pour la FIFA. Donc il y a des choses assez, je dirais, qui sont à la fois innovantes, d'autres qui le sont moins. Alors est-ce que la FIFA va vraiment se réformer ? Ça, on peut en discuter. On peut craindre qu'il y ait, de vieilles forces d'inertie qui viennent là aussi ralentir les réformes nécessaires. Et je crois que la question du dopage, quand on a vu toute l'évolution du dopage, ce qu'on a envisagé pour lutter, montre aussi que malheureusement, il y a des signes de reconduction, si j'ose dire, des phénomènes d'inertie qui sont trouvés, qu'on a dans le dopage. Donc il faut faire attention, oui, il y aura des réformes, mais est-ce que ça va aboutir ? C'est un sujet assez compliqué.
En fait, c'est un travail de très longue haleine, Pim Verschuren.
Oui, bien sûr, les 5 candidats pour le 26 février prochain à l'élection sont tous issus de la FIFA, ils sont tous du milieu interne de la FIFA. Tous ceux qui vont devoir voter pour la réforme de la FIFA, donc les 209 fédérations nationales, sont aussi des gens qui sont à la FIFA depuis assez longtemps. Donc ce sont des gens qui ont pu peut-être aussi profiter du système, enfin en tout cas qui ont évolué dans le système, qui ont grandi dans ce système. Donc forcément, ça va prendre du temps pour que les pressions extérieures, qui sont de plus en plus fortes, il faut le dire, pression publique, pression de la société civile, des médias, poussent effectivement à plus de transparence, à séparer les activités commerciales des activités non commerciales, à mettre en place un système d'audit financier réellement indépendant, réellement efficace. Tout un ensemble de réformes qu'on connaît déjà depuis plusieurs années. Des rapports effectivement à la FIFA ont été publiés à ce niveau-là, mais qui n'ont pas été mis en place malgré toutes ces alertes.
Alors, une chose j'ajoute, on parlait tout à l'heure du football, mais enfin, ne nous contentons pas du football.
J'allais y venir, on allait élargir.
Non, parce qu'on parlait d'argent tout à l'heure. Bon, j'ai donné les chiffres. Les revenus globaux de la première ligue anglaise, pour donner ce chiffre, c'est plus de 5 milliards de dollars. Mais c'est pas le sport le plus riche, le football. Les plus riches, c'est la ligue de basket américaine et de baseball. C'est 9 milliards et 12 milliards de revenus annuels. Donc, les Américains qui se sont fait connaître à l'occasion de la FIFA, il y a aussi des enjeux massifs en termes d'argent, y compris aux États-Unis. Il y a aussi les questions de ligue américaine.
Alors, on parlait de dopage, Laurent Vidal parlait de dopage. Juste une petite question à propos de la Russie, avec le rapport explosif de l'Agence mondiale antidopage qui a conduit à la suspension provisoire de la Russie par la Fédération internationale d'athlétisme. Lequel rapport révélait donc que le dopage d'État résultant de directives venues du sommet de la pyramide politique et coercitif n'avait pas disparu avec le mur de Berlin. Les athlètes seront-ils présents, russes, aux Jeux Olympiques au Brésil cet été ? Et au-delà de cela, sur les questions de dopage et de directives venues du sommet de la pyramide politique, est-ce que finalement le monde a été négligent sur la Russie et autres pays d'Europe de l'Est, dont on sait aussi, puisque on parlait de sport et politique en début d'émission, l'importance de médailles dans la course vis-à-vis des adversaires politiques.
Le monde n'a pas été négligent, puisque les tricheurs ont été pris et que les enquêtes prennent du temps et que finalement on n'a pas regardé ailleurs. Donc effectivement, le dopage a un assez haut niveau au sein de la Fédération russe d'athlétisme qui pendant très longtemps été alimenté par des rumeurs, s'est vérifié dans les faits, il y a eu des informations, il y a eu des preuves, il y a eu des aveux, et donc les gens ont été pris. On voit aujourd'hui qu'il y a toujours une course entre la lutte antidopage et le dopage. On n'a pas éliminé le dopage, mais que la lutte antidopage devient de plus en plus efficace, malgré les progrès de la médecine qui met sur le marché des produits nouveaux qui sont plus facilement masquants, et le temps de détection des tricheurs est de plus en plus court. C'est ça qui est bien, c'est que auparavant, par exemple, le dopage old school de l'Europe de l'Est, de l'Allemagne, de l'Union soviétique, etc., de l'Allemagne de l'Est surtout, on le soupçonnait, parce que les transformations physiques qui étaient bizarres, quoique il n'y avait pas que du dopage en Russie, en Union soviétique, il y avait aussi aux États-Unis. Mais là, on l'a su 20 ans après. Et puis, dans les années 90-2000, c'était 5 ou 10 ans après. Maintenant, ça devient de plus en plus court, et donc les taux se resserrent et le risque de se doper devient de plus en plus important. Il y a deux risques majeurs sur le sport, c'est le dopage et les paris truqués. Et bon, il y a une agence mondiale antidopage qui fait son travail, qui obtient de plus en plus de succès, qui élargit son champ de compétences et qui se fait de plus en plus respecter et qui maintenant n'est plus uniquement dans la sanction mais qui est également dans la dissuasion, parce qu'il y a des tricheurs qui se disent oula, peut-être que je me ferai prendre que dans 3 ans, mais 3 ans c'est court et tout mon palmarès sera anéanti et je n'aurai plus le droit d'être dans les compétitions.
Laurent Vidal.
Alors, ajouter 2-3 choses quand même. La question que vous avez posée est importante parce que c'est un rapport au-delà du dopage. Est-ce que ça fonctionne ou pas? Il y a la question de l'autonomie du sport et des régulations des États. Donc, il faut bien que vos auditeurs comprennent qu'on a un vrai débat sur qu'est-ce que l'autonomie du sport, qu'est-ce qu'elle recouvre et qu'est-ce que les États ont le droit de faire par rapport aux institutions sportives. Et aujourd'hui, le monde du sport se protège à travers ou derrière le paravent de l'autonomie du sport, ça c'est très très important, et il y a un débat, une sorte de dialectique entre qu'est-ce que c'est que l'autonomie du sport, qu'est-ce que c'est le rôle des lois de l'État, entre guillemets, et comment elles ont un rapport avec cette autonomie du sport.
Quand vous parlez d'autonomie, vous parlez de quoi très précisément?
Ah ben justement, c'est bien le problème. Quand le sport parle d'autonomie, c'est une sorte, si vous voulez, ce qu'on appelle la lex sportiva, qui fait que le sport a, on va dire, jusqu'à un certain degré, ses propres règles de fonctionnement, et l'État, là aussi, respecte cette sorte d'autonomie, les règles du sport, qui permettent au sport de fonctionner avec ses propres règles, évidemment avec des limites. Donc, il y a le disciplinaire d'un côté, il y a le pénal qui est étatique, le disciplinaire qui est le sport, et donc les relations entre l'un et l'autre font que si on n'a pas toujours, si vous voulez, fait ce qu'il fallait, c'est parce que le sport excipait ou arguait de cette autonomie et que les États ont volontairement laissé le sport, si vous voulez, s'auto-réguler, mais on sait qu'aujourd'hui que l'auto-régulation du sport ne fonctionne pas. Pour revenir sur le dopage, alors l'Agence mondiale antidopage est à la fois un succès aussi un échec, mais aujourd'hui il y a aussi des problèmes de preuves très précis. Si vous voulez qu'un sportif dopé soit pris, aujourd'hui, au bout d'une heure, certains produits dopants disparaissent complètement. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? C'est prévoir des contrôles inopiné. Le problème, c'est qu'il y a devant les juridictions nationales, qui sont aussi celles qui mettent en pratique et en œuvre au plan national, la législation mondiale, notamment le Code mondial antidopage, il y a des questions de liberté publique. Peut-on, à n'importe quelle heure de la nuit, aller chercher un sportif dopé comme un terroriste? Et c'est bien ce qu'arguent les sportifs en disant « on est suspecté comme un terroriste le serait parce que on vient nous chasser ». Donc voilà, il y a des problèmes de liberté publique, donc tout ça n'est pas très facile entre la lutte contre le dopage et le respect des libertés publiques. Voilà, vous donner quelques points.
Pim Verturen.
Oui, pour revenir sur le sujet de l'autonomie sportive, je crois qu'effectivement, là, on voit bien qu'il y a une double responsabilité des autorités sportives de lutter contre tous ces scandales de dopage, par les trucs. Et double responsabilité, c'est tout d'abord une responsabilité parce qu'ils revendiquent cette autonomie sportive, donc cette liberté sur l'organisation des compétitions sportives, la gestion du sport, mais aussi liberté sur la gestion des revenus financiers liés au sport. Donc là, malheureusement, les autorités sportives ne sont pas suffisamment responsabilisées pour finalement mériter cette autonomie sportive qu'ils ont cherché à revendiquer vis-à-vis des États. Et deuxième responsabilité, c'est que tous ces enjeux financiers dont on parle, qui sont développés depuis les années 80, c'est assez récent, se sont développés à l'initiative des autorités sportives, qui ont mis en place des programmes de sponsoring, de commercialisation, développement des droits télé, de mettre plus en plus de compétitions sportives à la télé pour multiplier les revenus, mais ils ne se sont pas en même temps protégés des dérives que pouvaient susciter ces enjeux financiers additionnels. Et donc là aussi, une deuxième responsabilité des autorités sportives qui doivent mettre en place les transparences, les contre-pouvoirs, les audits et les systèmes de lutte qui se mettent en place trop lentement contre le dopage et les paris truqués et autres fraudes institutionnelles qui touchent les arcanes du sport.
Alors, les chiffres que donnait Laurent Vidal tout à l'heure, je parle à nouveau sous votre contrôle, j'ai pris des notes et j'espère qu'elles sont bien prises, entre 1000 milliards et 3000 milliards de dollars sur les paris sportifs chaque année. Ce sont des budgets juste monstrueux.
Oui, c'est bien pour ça que les Nations Unies commencent à se dire, y compris, enfin maintenant c'est devenu un sujet international, que ce soit l'Union Européenne, que ce soit aujourd'hui les Nations Unies qui commencent à articuler un certain nombre de politiques, c'est pour ça que le CIO a conclu un accord avec Interpol pour justement mettre en place un système d'échange d'informations sur ces questions de paris sportifs. Donc on peut y revenir, ça c'est vraiment quelque chose de très très important. C'est un problème global, mondial, international, et qui ne touche plus spécialement le sport, qui touche le crime organisé.
Alors, il nous reste 4 minutes pour en parler. Ce constat de l'intrusion grandissante des organisations criminelles dans le monde des paris, double ou triple question, pourquoi les mafias s'intéressent-elles tant aux gains sportifs? Alors on l'a compris, les chiffres sont là pour dire qu'il y a de l'argent à faire. Et est-ce qu'on peut parler d'une corruption généralisée dans le monde du sport et au-delà, comment lutter ? Pascal Boniface ?
Alors oui, bien sûr, le crime organisé s'intéresse à tout ce qui peut rapporter de l'argent. Et comme il y a maintenant beaucoup d'argent dans le sport, il s'y intéresse comme avant c'était les cigarettes, la drogue, etc. Et donc c'est la nouvelle frontière. Peut-on parler de corruption généralisée ? Non, parce que il faut pas globaliser à ce point. Il y a de la corruption n'est pas généralisée. Et la lutte contre la corruption réussit, les gens sont pris, la détection des paris truqués est de plus en plus faite. Et donc, je dirais que la lutte contre la corruption est plus forte que la corruption. Et la corruption, elle reste l'exception, elle n'est en aucun cas la règle. Mais l'exception est spectaculaire, alors que la règle l'est moins.
Alors, on dénonce souvent le manque de moyens de la lutte contre la corruption, Laurent Vidal.
Alors, ça dépend ce que vous appelez corruption, hein. Il faut faire attention, parce que derrière corruption, il y a plein de choses, hein. Donc là, si on parle des paris sportifs, il faut quand même bien comprendre que aujourd'hui, pour blanchir de l'argent, il est beaucoup plus simple de passer par des paris sportifs que par les sociétés offshore traditionnelles. Donc ça, c'est très simple. Il y a quasiment pas de risque puisqu'il y a pas de pénal. Enfin, il y a très peu de lois où ça commence à venir sur le match fixing dans différents pays. Ça commence à venir. Il y en a de plus en plus. Et puis alors la corruption généralisée, la question, non, ça n'est pas généralisé. Malheureusement, on vient de voir pour l'Open d'Australie qu'un ancien joueur classé 187e à l'ATP vient de plaider coupable dans un procès qui lui a été fait. Vous savez ce qui s'est passé avec l'Open d'Australie, 28 joueurs, l'enquête de BuzzFeed, etc. Donc il y a quand même, malheureusement, en matière de matchs truqués, il y a quand même de plus en plus de révélations qui feraient ou qui accréditeraient la thèse sur laquelle c'est quand même quelque chose de très très répandu. Alors les moyens, pas assez encore, mais il y en a de plus en plus. Et en France, l'Argel fait un travail. Ils viennent de la France a annoncé la mise en place de la plateforme internationale.
C'est pas parce qu'il y a plus de révélations qu'il y a plus de corruption. Je pense que justement, c'est que la corruption est de plus en plus identifiable, donc on en parle beaucoup plus, mais elle ne s'est pas développée. C'est plutôt les révélations sur la corruption qui sont plus importantes, et on pourrait, à cet égard, faire un parallèle avec le monde politique.
Surtout que ces révélations ont un effet dissuasif, puisque les athlètes, ils voient qu'effectivement, il y a des autorités de contrôle, que les tricheurs sont attrapés, etc. Pour revenir sur la question des matchs truqués liés aux paris sportifs, ce qu'il faut bien savoir, c'est que ces centaines ou milliards d'euros qui sont pariés chaque année, c'est de l'argent qui échappe à toute régulation sportive, mais aussi régulation publique. Très souvent, donc, ce sont des opérateurs de paris sportifs hébergés dans des juridictions offshore qui vont drainer des milliards d'euros de différentes juridictions, mais tout ça, ça échappe à n'importe quelle régulation, puisque ces sociétés sont licenciées dans des paradis offshore, au Costa Rica, dans les Philippines, et qu'elles ne sont pas du tout contrôlées. Donc il y a ce volet-là, et ensuite il y a le volet que les mafias, certaines organisations criminelles, ont voulu cibler des compétitions sportives qui pouvaient être assez facilement trucables, comme des petites compétitions de seconde zone dans différents pays où il n'y a pas les protections, où les athlètes ne sont pas véritablement informés, sensibilisés, où il y a une certaine précarité financière des athlètes ou des clubs. Et donc ça peut être tentant pour ces sportifs d'accepter des pots de vin. Donc on avait bien un double problème, les paris sportifs qui sont développés de façon dérégulée, où il peut être très facile de parier des grandes sommes, et certaines compétitions sportives qui peuvent être ciblées par les mafias.
Et des formules de paris très simples. Vous pariez sur un seul événement, un carton rouge, évidemment, c'est facilement manipulable.
Alors, vous étiez trois messieurs à parler de sport, mais il y a quand même une information que je ne peux m'empêcher de donner concernant les Jeux Olympiques de Rio, qui vont être caractérisés par un fait inédit. Pour la première fois, la participation féminine représentera 50% du nombre global des athlètes qui seront présents. Voilà, c'est sur cette information que se termine Géopolitique. Merci à nos invités. Pascal Boniface, fondateur et directeur de l'IRIS, auteur de plusieurs ouvrages sur la géopolitique du sport. Laurent Vidal, enseignant-chercheur et directeur de la chaire éthique et sécurité dans le sport à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et Pim Verschuren, chercheur à l'Institut des relations internationales et stratégiques. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, également sur Facebook. Émission